Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et rebonjour et rebonjour à tous et à toutes. On se retrouve actuellement avec Sarah, hein, qui avait prévu de nous parler du coup de l'appui militaire de la Corée du Nord à la Russie dans le conflit ukrainien. Dis-nous tout, Sarah.
Bon, bien d'abord, je vais commencer par vous faire une présentation de ce qu'est l'armée nord-coréenne, surtout de façon quantitative, de son effectif et de ses dépenses. Donc, comme on le sait, c'est l'armée coréenne, c'est une armée qui est massive. Ouais. Ça représente la 4e plus grande armée du monde pour un pays d'environ 25 millions d'habitants. Puis, c'est plus d'1,125,000 soldats qui font partie de cette armée, dont plus de 9 500 000 qui sont réservistes, qui sont prêts aussi à être déployés. Puis le pays aussi, lui, va déverser entre 20 à 25 % de son produit intérieur brut pour des dépenses militaires qui représentent 10 milliards de dollars US par an. À titre comparatif, la Corée du Sud, c'est en 2,5 et 3 % de son produit intérieur brut qui va être dépensé pour une somme de 36 milliards, étant donné que c'est un pays plus développé. Puis ce qui a aussi sonné l'alarme, bien, c'est oui, le déploiement de troupes en Russie pour aller combattre contre l'Ukraine, mais c'est aussi le déploiement d'un missile balistique intercontinental jeudi le 31 octobre dernier, lancé par les Nord-Coréens. Puis ce missile va être appelé le Hwasong-19, donc c'est déjà la 19e variante de ce missile. Puis il va être doté d'une portée de plus de 15 000 km. Donc c'est assez pour facilement atteindre le sol américain. Puis les tests effectués démontrent qu'il s'agit du plus long vol effectué par un missile balistique. C'est une durée de quasiment 1h30, soit 86 minutes pour être plus exact, pour atteindre l'altitude vertigineuse de 7000 km. Mm-hmm. Donc un court voyage dans l'exosphère.
Ouais, donc on parle quand même d'une bonne armée, parce que à titre comparatif, je pense que le Québec, si je me trompe pas, c'est moins de 360 000 réservistes et soldats actifs.
Ouais, c'est ça. Au Canada, je crois qu'on est à... Depuis la COVID, ça l'a beaucoup baissé, mais on est à 70 000.
Ah, purée, donc ça fait...
Quelque chose comme ça, mais ça, on n'a pas les mêmes...
Sept fois plus grande, quoi.
C'est ça, on n'a pas les mêmes dépenses non plus. Puis, bon, pour qu'il y ait des missiles, c'est que ces nouveaux missiles-là sont beaucoup plus performants. Mm-hmm.
Et qu'est-ce que ça va apporter dans le conflit
Qu'est-ce que ça va apporter
ouais, qu'est-ce que ça fait en fait Qu'est-ce que ça va, on va dire, apporter à la Russie dans le conflit ukrainien? Parce qu'on sait que déjà l'Ukraine a pas mal de soutien et de financement des pays occidentaux. Est-ce que la Corée pourrait rebalancer ça? Ou on est encore quand même sur une zone d'hésitation où on reste quand même où ça reste à étudier?
Exactement. Bien, la Russie, ils ont quand même des bonnes technologies. C'est sûr qu'ils ont beaucoup moins d'alliés. La Corée du Nord, eux, vont beaucoup développer dans ce qui est nucléaire, puis vont aller rechercher de la Russie les autres technologies qui manquent, puisqu'il y a beaucoup de leur effectif, les appareils sont des vieux appareils russes, puis aussi pour aller chercher de l'argent pour aller former des pilotes, ainsi de suite. Puis les nouveaux missiles, donc les Hwasong-19, bien, comparativement aux anciens, ça va être des missiles qui vont carburer avec des carburants solides, puisque les anciens, c'était des carburants liquides. Puis le désavantage de ça, des carburants liquides, c'est qu'ils étaient beaucoup plus volatiles. Il y a des susceptibles aussi de corrosion puis de toxicité. Donc, en ce qui a trait pour l'entreposage, puis le déplacement, puis l'utilisation même des missiles, c'était beaucoup plus compliqué.
Parce qu'il y a pas mal... j'avais vu un peu l'info. Je ne sais pas si tu avais checké aussi, William. On avait pas mal parlé aussi du fait que Poutine est dos au mur, je cite. Parce qu'on dit que quand même sur l'échange en soi, c'est pas assez rigoleux. Pour certains occidentaux, Kim Jong-un a juste vendu ses soldats au détriment de nouvelles technologies et d'apports nucléaires, comme tu le disais si bien. Est-ce qu'on peut s'attendre à une perte de l'armée russe actuellement? Est-ce que ça traduirait que l'armée russe actuellement est défaitiste du conflit Russe-Ukraine, ou alors on peut s'attendre plutôt à un renforcement de Poutine pour mettre au point encore une plus grande domination?
Moi, je voudrais juste intervenir là-dessus. En fait, je pense que pour moi, c'est pas une marque de faiblesse que d'aller chercher de l'aide aux Nord-Coréens, et même bien au contraire, je pense que c'est avant d'être un move et un échange, ça va être un mouvement diplomatique. Mmh. Et de mon avis, je pense que derrière cette idée-là, on a la volonté d'une mondialisation du conflit et de porter ce conflit à une échelle qui n'était jusqu'alors qu'à une échelle plutôt régionale. On parle de l'Est de l'Europe et de la Russie, en fait. Et j'ai l'impression que derrière cette idée aussi, on a vraiment l'objectif, en tout cas d'un point de vue, je m'imagine en tant que stratège de guerre, donc du dimanche, bien sûr.
Yes.
Mais, qu'on se retrouve dans une situation où non seulement on a une mondialisation du conflit, mais aussi on a une création d'une interdépendance entre plusieurs nations belligérantes. Et là, à l'heure actuelle, c'est peut-être le conflit qui est le plus proche de l'Europe. Et ce qui est ultra intéressant aujourd'hui, c'est de voir que pour l'instant, les Européens n'ont pas pris part au conflit en envoyant des hommes, mais seulement en envoyant des ressources.
Non,
officiellement.
Ils ont envoyé des gens, mec, je suis pas d'accord.
C'est vrai ?
Ouais, ils ont envoyé des gens. En fait, ça n'a pas été fait de manière directe, mais ne serait-ce qu'il y a eu des volontaires qui ont été présentés dans le conflit. Donc il y a des Occidentaux français qui sont déjà venus en marche sur le conflit, que ce soit pour un soutien de première nécessité ou même pour un soutien militaire. Quand je parle de première nécessité, je parle d'entraide, de soutien à la population, non soldats, non armés, mais ouais. Mais moi, je pense que je suis d'accord avec le point de vue que tu dis que ça mondialise un peu le conflit, parce que même au-delà de ça, tu sais, t'as le sud de la Corée qui vont potentiellement rompre leur accord et commencer à faire un fond, qui vont commencer à apporter un soutien également pour l'Ukraine. Donc, faut mondial à voir, mais en tout cas, que la Corée du Nord et du Sud s'influent dans le conflit, ça me choquerait pas.
Bien, j'allais vous dire, c'est surtout un coup de poker, donc c'est de jouer ses cartes rapidement. La Russie en ce moment. Bien, ils sont pas dans le mal, ils sont pas dans les pertes. En octobre, ça a été le mois qu'ils ont fait le plus de gains depuis l'annexion en 2022. Puis, d'un autre côté aussi, Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, va donc aller demander davantage de l'aide encore à la communauté internationale, puis ils sont en manque de munitions, de soldats. Puis, bien, toutes les fois, les États-Unis répondent. Donc, immédiatement, c'est envoyé 420 millions de dollars pour des effectifs, munitions, soldats, etc. Okay. Puis, en fait, c'est que aussi la Corée du Nord, puis la Russie, les deux ont construit leur alliance en se basant sur le fait que les États-Unis, bien, c'est leur ennemi commun.
Mm-hmm.
Donc, la Russie, on peut penser notamment à la guerre froide, le monde qui a été divisé en deux, donc les blocs davantage libéralistes contre les blocs socialistes. Pour un monde qui était dit bipolaire, puis aujourd'hui, le monde, il va être multipolaire, étant donné que la puissance des États-Unis va s'affaisser un petit peu. Puis, il va y avoir d'autres pays ressurgents, comme la Chine, Brésil, Inde, puis...
Même l'investissement qui a été fait en Afrique subsaharienne. Oui,
il faut qu'il y ait des alliances, un peu comme vous disiez. C'est sûr, si ces pays-là se montent à eux seuls contre l'Occident, puis les États-Unis ne vont pas réussir, mais si ils réussissent à aller chercher des alliances à court terme, parce que au fil du temps, ça va pas être viable.
Ouais, c'est sûr.
Puis ça va nous laisser dans...
ça nous laisse sur le mot de la fin. Question à l'ouverture, est-ce qu'il faudra s'attendre, de par ce conflit, un nouvel ordre mondial où on va plus laisser du coup l'Occident totalement régner et mettre la main courante, mais aussi retrouver une Russie d'antan avec des alliés forts comme la Chine, l'Algérie aussi qui tente de concrétiser une relation avec celle-ci, la Corée du Nord, ainsi de suite. À voir pour l'avenir. En tout cas, on souhaiterait tous se désister d'une troisième guerre mondiale, ça c'est sûr.
Ah ça.
En tout cas, une courte pub pause et on se retrouvera après avec une affaire assez intéressante de pyromanie au sein du Canada. Donc une courte pause pub et on se retrouve d'ici quelques minutes. À toutes.